bienvenue sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios. Aujourd'hui, vous êtes dans l'émission DTO, Dans tes oreilles, qui reçoit des autrices contemporaines afin de mettre en lumière leurs écrits et leurs talents. Et nous recevons également des comédiennes pour lire ces textes. Donc aujourd'hui, je suis entourée de notre invitée principale qui est Yana Raymond.
Bonjour.
Annaëlle Croiset, bonjour. Comédienne. Et Élise Bonnard.
Salut.
Yana, sans plus attendre ta biographie pour mieux te connaître. Yana Raymond, tu es dramaturge et nouvelliste française. Tu as grandi dans le sud de la France où tu as suivi des études de piano, de bandourilla et de basson. Au CRR de Perpignan. Tu y fais ta scolarité en cursus CHAM, classe à horaire aménagé musique. Cette formation t'offre l'opportunité de participer à de nombreux projets transdisciplinaires au sein du conservatoire. Projet commun avec les classes de danse et de théâtre, participation à la création d'une opérette. Et tu obtiens ton CFEM, certificat de fin d'études musicales, en piano et formation musicale. Tu quittes ensuite le Soleil du Sud pour la ville de Lyon, où tu mènes un master de lettres modernes et une licence d'art du spectacle. Actuellement, tu es élève en troisième et dernière année à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, l'ENSAT, en section écrivain-dramaturge. Tu es l'autrice d'une dizaine de nouvelles et de pièces de théâtre et a collaboré à plusieurs projets transdisciplinaires à la croisée du théâtre, de la danse, de la musique et de la marionnette, collaboration avec les marionnettistes de l'ESNAM à Charleville-Mézières. Toujours passionnée de musique classique, tu collabores régulièrement avec le trio de musique baroque, Les Timbres. Tu vis donc actuellement à Lyon et tu mènes conjointement à ta formation à l'ENSAT un master de psychologie clinique. Ouais. Eh ben, c'est un sacré parcours. J'ai trouvé que c'était un parcours plutôt riche et atypique. Et ça m'est venu à l'idée de te poser la question. Quand je vois tout ton parcours, est-ce que ça te semble impossible pour toi de ne faire qu'écrire, entre guillemets ?
Alors pour moi, j'ai toujours, enfin depuis que je suis petite, je fais plusieurs cursus en même temps parce que quand j'étais à l'école, ben, j'étais au conservatoire. Du coup, c'était un grand investissement parce que ça demande 1 à 2 heures de travail par jour, plus les journées au conservatoire, etc. Donc je crois que j'étais habituée à avoir une surcharge de travail. Mais maintenant, je crois que je sature un peu et j'aimerais bien avoir un peu plus de temps pour me consacrer uniquement à l'écriture. Mais ça devient de plus en plus difficile parce que j'arrive aussi à un moment où ben, voilà, j'ai un certain âge, enfin, j'ai déjà 26 ans et je suis toujours étudiante et je suis obligée de penser pour obtenir un métier parce que je pense pas que je vivrai de l'écriture. Et en même temps, je suis à un moment où je me rends compte du temps que ça demande vraiment pour s'informer sur un sujet, étudier, écrire, rencontrer, avoir des retours. Donc oui et non, d'un côté ça me nourrit énormément, les études, et d'un autre côté j'aimerais bien avoir la possibilité de faire plus de pauses.
D'accord. Et mais t'as commencé à écrire en même temps que t'étais au conservatoire?
J'ai commencé en terminale à faire en même temps une nouvelle et une pièce de théâtre. On s'était ça valait ce que ça valait, hein.
C'était pour toi ou c'était dans le cadre d'un projet scolaire?
Pour moi, pour le coup, c'était, je sais pas pourquoi, enfin d'un coup c'est venu, j'ai envie d'écrire une nouvelle sur telle thématique. Et une pièce de théâtre, parce que j'avais une amie qui déprimait complètement suite à une histoire d'amour malheureuse, etc. Donc j'ai fait une pièce de théâtre pour qu'elle rigole. Et ça s'amusait beaucoup. Donc j'ai commencé comme ça, en fait.
D'accord. Par altruisme, c'est beau.
Ouais, c'est clair. Pour tes potes.
Oui, c'est un peu égoïste aussi, moi. Ça fait de la satisfaction aussi.
Oui, t'as pris du plaisir aussi.
Et du coup, tu l'as fait jouer, cette pièce, à l'époque
ou... Alors non, pas du tout. Puis en plus, c'est vraiment mauvais. Hein, je veux dire, c'était vraiment...
Pour vous amuser un peu.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Puis je connaissais pas grand-chose du théâtre contemporain, en plus, à l'époque. J'ai découvert très tard le théâtre contemporain. Et moi, je connaissais que Molière, Goldoni, du théâtre comique, que j'aime toujours beaucoup, mais... Je savais même pas que ça existait, le théâtre contemporain, quand j'étais en terminale, quoi.
Ah oui, oui. Mmh. Donc du coup, c'est pas du tout la musique qui a influencé ton envie d'écrire ou ton rapport à l'écriture?
Alors peut-être le théâtre, parce que j'ai accompagné des acteurs. Enfin, moi, je joue du piano. Et notamment sur ce projet d'opérette. Donc il y avait un élève de l'école qui avait écrit une opérette. Et donc c'était tous les profs participaient, tous les élèves en théâtre, en musique. Et ça m'a énormément plu, je me suis tapé des fous rires en répète, j'adorais juste en répète regarder les acteurs travailler, tout ça. Et donc je crois que ça m'a donné envie d'écrire du théâtre comique. Et pendant plusieurs années, j'ai fait vraiment que du théâtre comique. Et là, depuis 2 ans, je fais plutôt des trucs un peu déprimants, mais j'espère en retourner, ouais, revenir un jour. Mais
j'allais dire, t'as changé. Enfin, dans les textes là que tu nous as transmis, c'est d'autres oui.
C'est genres. Ouais. C'est des thèmes plus sombres. Tu traites quand même des choses assez graves, quoi.
Oui, ouais. J'aimerais bien pouvoir. Enfin, je pense que tout peut être traité de façon comique, mais là, j'étais peut-être pas dans disposition d'esprit pour réussir à le faire, mais j'espère pouvoir y revenir un jour aussi. Enfin, avoir ces deux sortes d'écriture en parallèle, en fait.
Moi, j'ai une question qui, je pense, va être un peu la question que je vais poser à chaque fois à chacune de mes invitées. C'est qu'il y a un essai que j'aime beaucoup qui s'appelle « Une chambre à soi » de Virginia Woolf. Et Virginia Woolf, elle disait que pour une femme à son époque, donc au XXe siècle, il fallait, pour pouvoir écrire, une chambre à soi et quelques livres de rente. Toi, tu penses qu'il faut quoi aujourd'hui pour une femme en 2018 qui écrit ?
Ben, je pense que c'est toujours pareil pour moi. Ben, ça m'amuse parce que j'habite du coup en coloc avec mon amie et j'ai dit, moi, je veux ma chambre à moi. Et du coup, j'avais presque envie d'écrire une chambre à soi. Je sais pas, mais peut-être que c'est vraiment personnel, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment besoin à un moment de s'isoler pour vraiment pouvoir réfléchir. Et pour plus être, enfin, quand on est, ne serait-ce qu'avec une ou deux personnes dans la même pièce, je sais pas comment dire, ça fait un effet d'éponge et c'est hyper difficile de vraiment se concentrer comme dans tous les autres arts, je pense. Enfin, peut-être que les peintres aussi, ils ont besoin d'être vraiment tout seuls. Enfin, voyez, il y a un moment, on a vraiment besoin de cette solitude-là. Et il y a l'aspect financier aussi, parce que je pense que si on passe 10 heures par jour à travailler à McDo parce qu'on n'a pas de quoi bouffer et se loger, ben forcément, on arrive, on est crevé. Enfin, on n'a pas de temps disponible pour réfléchir aussi. Je pense que ça n'a pas changé. Oui.
Oui, c'est ça. Souvent, les gens ils voient pas l'écriture comme un travail, en fait, alors que c'est un vrai travail de concentration, comme tu dis.
Même mon père, le premier, me disait « Je comprends pas. Ces gens qui passent un an à écrire un roman, je comprends pas. »
Une perte de temps.
Oui, dans son idée, ça, tu fais ça, t'écrivais ça en 3 jours. Quoi. Enfin,
ah ouais. Donc, sans plus attendre, je vais vous lire un extrait d'un de tes textes qui s'appelle « Breaking Moon ». Tu l'as écrit quand, ce texte ?
Je l'ai écrit l'année dernière.
Ouais.
Oui, c'est ça, l'année dernière. J'en parle
bien
un
sûr,
petit
bien
peu.
Bien sûr, ouais.
Parce que moi, j'adore la littérature fantasy. Fantasy, pardon. Et j'en ai jamais essayé d'en écrire jusqu'à l'année dernière. Et puis à un moment, je me suis un peu intéressée au concours de nouvelles fantasy, enfin SFFF pour le coup.
C'est quoi SFFF en fait ?
Science-fiction, fantasy, fantastique. Okay. Et finalement, il y en a pas mal en fait qui circulent. Et du coup, je me dis, mais en fait, je comprends pas, j'adore ça, j'ai jamais essayé. Bon, alors je vais essayer. Du coup, j'en avais écrit une. Enfin, j'en ai écrit plusieurs. En fait, j'en ai écrit à peu près 7 que j'ai envoyé un peu au concours. Et celle-ci, c'était aussi sur un thème qui était sur la fin du monde, un peu. Enfin, voilà. Donc, c'est une nouvelle fantasy qui se passe dans une sorte de ville américaine du futur, mais ça pourrait très bien être demain. Enfin. Un jour, sans qu'on sache pourquoi, la lune devient violette et il n'y a vraiment aucune explication rationnelle à ça. Enfin, il y en a qui vont dire que c'est voilà, la pollution ou une attaque de zombies, d'ovnis, enfin, des extraterrestres, enfin, on ne sait pas. Et ça va vraiment faire réagir toute la ville parce que c'est encore plus difficile de savoir quoi faire quand on ne sait pas ce qui se passe exactement. Quoi. Et je crois que ce qui m'intéressait, moi, c'était surtout cette sorte d'attente en germe dans les sociétés où qui connaissent pas la guerre, enfin voilà, on a un certain confort de vie, etc. Il y a une sorte, j'ai l'impression, d'attente qu'il se passe quelque chose, que ça soit une guerre civile, que ça soit la montée du FN, j'en sais rien, mais voilà, il y a on veut qu'il se passe quelque chose et c'est à ce moment-là, j'ai l'impression que les gens se révèlent aussi. Hein. Ça permet de faire ressortir le meilleur et le pire chez chaque personne aussi.
Je me demande ce que je laisserais de mon passage si je disparaissais demain. Quelques photos ratées où je me cache derrière d'autres inconnus, quelques lignes de commentaires ou une note sur un blog. Je n'ai pas vraiment eu d'occasion de creuser mon propre sillon ou de suivre celui des autres. J'ai passé beaucoup de temps allongé sur mon lit, à dérouler mes espoirs et mes rêves, sans avoir encore eu le temps de me confronter à leur réalisation. J'aimerais au moins laisser une trace de ces rêveries. C'est la toute dernière chose à laquelle je me tiens. Elles sont d'autant plus importantes pour moi qu'elles sont restées à l'état de substances flottantes irréalisées. Elles n'ont pas eu le temps d'être réduites par les contraintes, heurtées par le bon sens, résidus efflanqués, mutilés, de leur nécessité et leur essence. Je me demande si ma mère avait des rêves avant de devenir notre mère. Comment se définit-elle aujourd'hui quand elle ne subit plus les limites de nos regards ? Malheureusement, ce sont des choses qui ne se demandent pas. Comme je ne peux pas lui dire ce qu'elle représente pour moi et l'angoisse qui s'y accroche. Une fin. Mais maintenant qu'elle jette sa collection de robots ménagers à l'autre bout de la pièce avec de curieux grognements de satisfaction, ses contours deviennent moins nets. Ce qui me terrifie étrangement. Si ce n'est plus seulement la mère dont je peux prédire chaque geste, chaque soupir exaspéré, qui est-elle en train de devenir ? Quel être humain es-tu en train de remodeler ? Soudain, comme un éclat dans ton œil, comme un éclat dans ton œil qui se rajoute à ta robe améthyste. Une tache que l'on voit jusqu'ici en parfait angle droit. Wikipédia ne dit rien d'un angle droit dans la lune. Wikipédia ne dit rien d'une lune violette. Wikipédia ne dit rien de la lune, ne dit rien de ce qui compte. L'angle droit n'existe pas dans la nature, peut-on lire. L'angle droit est une invention des hommes, un étau contre les courbes et les arrondis, contre les brisures et les sens insaisissables. Les voisins s'agitent. Une sourde frustration monte dans la cour de l'immeuble, celle de ne pouvoir agir maintenant et en toute disproportion. Les habitants se tiennent lèvres serrées derrière leurs fenêtres, qu'ils ont fermées en signe manifeste de protestation. Je croise ma voisine qui revient des caves chargée d'un long étui emballé dans du journal. C'est un vieux fusil, hérité d'un de ses ancêtres décoré de la grande... C'est un vieux fusil hérité d'un de ses ancêtres décoré de la dernière grande guerre avant l'instauration des viseurs intelligents, quand les combattants devaient encore être en contact de l'ennemi avant de tirer. « Je sais qu'ils viendront », me confie-t-elle, entre deux respirations saccadées. « Et vous savez, une vieille femme comme moi, face à des barbares sans foi ni loi, faut bien que je me protège. » Elle vient de monter 6 étages en courant, malgré ses 96 ans, mais n'a jamais eu l'air en meilleure forme qu'aujourd'hui. Ma voisine n'est pas la seule à sortir les armes. Les plus impatients guettent les premiers signes d'émeute pour défendre leur foyer et caresser l'héroïsme le temps d'une balle. Les lieux de culte se remplissent des plus fidèles, à ceux qui ne croient que par habitude, mais ce sont les indécis qui remercient le plus chaudement Dieu de leur avoir envoyé un signe en faveur de l'existence d'une entité supérieure. Ils dormiront plus apaisés ce soir. L'intolérable instabilité de l'existence se voit soudain dotée d'un cadre.
Parfois je me sens étranger à ma propre terre. Extraterrestre. Moi j'ai rien à voir avec cette histoire. Avec ce type là, je suis d'une autre espèce. Je viens ni du futur, ni du passé. Je viens tout simplement d'ailleurs. Me demande pas ce qui s'est passé. Je suis allé au bout de mes peurs. Colonel Course, Marlon Brando. Je reviens du cœur des ténèbres. Seul avec moi comme John Rambo. J'ai cousu mes propres plaies. Je reviens en paix, j'ai gagné cette guerre. Des traces de fouet sur le dos. Esclave hier, aujourd'hui fier. Prêt pour l'apocalypse, no. J'ai fait des voyages interstellaires. Des odyssées dans le cœur de mes frères. Ce que j'ai vu m'a fait pleurer. Toujours obnubilé par des tas de billets. Je n'ai rien à voir avec eux. Rien à voir avec vous. Rien à faire avec vous. Rien à voir avec eux. Non, rien à voir avec vous. Appelle-moi comme tu veux. Ça me va d'être fou. Moi j'ai rien à voir avec cette histoire. J'étais même pas là. J'étais dans l'espoir. Moi j'ai rien à voir avec cette histoire. Avec ce type là, je suis d'une autre espèce. Comme si j'avais fumé, que j'avais bu. Mes pupilles sont des trous noirs. Vu ce que j'ai fait, vu ce que j'ai vu. Ma mémoire a des trous noirs. Comme un souvenir d'un long périple. L'Antoine de Saint-Exupéry.
Certains vivent pire, le temps est pénible. Enfance malheureuse, terrible. Moins que ma mère, guerrière céleste sur l'étoile cachée par plus con. Je me suis vu moi-même dans un rêve funèbre. Je me disais, dessine-moi un mouton. Je reviens d'un voyage interstellaire. Tu m'as vu jouer dans le cœur de nos mères. Et ce qu'elles m'ont dit m'a fait pleurer. On ne fait que s'entretuer. Je n'ai rien à voir avec eux, maman. Rien à voir avec eux, maman. Je te jure que j'ai rien fait, maman. Pardonne-moi si je suis faible, maman. Apprends-moi à marcher, maman. Apprends-moi à aimer, maman. Cette terre est dévastée, maman. Pourquoi tu veux rester, maman? Moi j'ai rien à voir avec cette histoire. J'étais même pas là, j'étais dans l'espace. Moi j'ai rien à voir avec cette histoire. Avec ce type-là, j'suis d'une autre espèce. Je dois être fait d'un autre alliage.
D'une autre étape dans notre habillage.
Je n'ai rien contre les enfants du
yoge. On est adultes trop tôt,
c'est de plus en plus grand.
Et ça se voit sur beaucoup de visages.
Dans la vraie vie, y'a pas de filtre Instagram.
L'insoutenable légèreté de l'être. Pour profiter d'autres, y'a toujours une raison.
Et je dois être un extra bleu.
En vrai, je pourrais vivre sans
téléphone maison.
Me contenter de dattes, de miel et de lait. Des livres comme engrais pour une âme qui pousse bien. Pèlerin un piéton sous le soleil en vrai. Oula oula, ce serait vraiment trop bien.
Oula oula.
Oula oula, ce serait vraiment trop bien.
Moi j'ai rien à voir avec cette histoire. J'étais même pas là, j'étais dans l'espace. Moi j'ai rien à voir avec cette histoire. Avec ce type là, j'suis d'une autre espèce.
C'était donc un extrait de Breaking Moon de Yana Raymond, suivi de la musique Autre espèce de This is La Peste, qui je trouve collait très bien à cet extrait de texte. C'est un texte dans lequel tu parles de Wikipédia, tu parles du temps qu'on n'a plus à consacrer aux choses, aux gens et donc à la Lune. Et c'est marrant, j'ai remarqué que tu n'avais pas Facebook et je me suis dit, tiens. elle fait écho à Wikipédia dans ses textes. Je sens que, enfin, j'ai l'impression que t'es peut-être un peu anti-réseaux sociaux, non? Y a pas un petit
Alors je suis pas anti-réseaux sociaux. J'ai Facebook.
Ah.
Mais alors réduit, avec tout configuré pour que personne puisse y aller. C'est plutôt une fenêtre que moi je peux aller sur les sites qui m'intéressent. Enfin.
Ah ouais.
Par contre, bon, je suis déjà un peu vieille. Je suis un peu dépassée déjà par tous les réseaux sociaux, genre Snapchat, tout ça.
Ouais.
Je suis pas contre, je trouve que ça peut être un outil formidable comme Internet. Hein. Enfin, je suis très heureuse de vivre à l'ère d'Internet et d'avoir toute cette information à portée de main. Quoi. Ça, mais je trouve ça génial.
Surtout quand t'écris, c'est génial, c'est
oui.
Pratique.
Ouais. Quand on cherche, on est toujours en train de chercher un truc absurde, genre comment les escargots se reproduisent, pour juste pour un passage, et on trouve directement. Et les réseaux sociaux aussi, ça peut être vraiment formidable. Enfin, on voit, ne serait-ce que pour militer, pour passer de l'information, etc. Après, ça me dérange le narcissisme que ça développe chez certaines personnes. Et en même temps, il y a un côté... Enfin, je juge pas non plus en disant « Oh là là, cette personne est tellement narcissique, elle raconte toute sa vie en temps de détail. » Mais il y a un côté très triste, je trouve, à essayer de... d'avoir une injonction au bonheur. Enfin, il faut montrer tout ce qu'on a fait pendant les vacances et montrer qu'on est heureux et que notre couple est parfait et que c'est tellement bien ce qu'on a acheté. Et du coup, je trouve ça tellement triste, en fait. Ça me déprime un peu.
Espèce de fausse vitrine de bonheur, un peu...
Oui, voilà. Et puis, il y a des choses hyper bizarres, genre mettre une photo de son enfant à peine on a accouché. Il y a quelque chose de très impudique là-dedans, je trouve. Enfin...
Donc, aucune haine viscérale pour Wikipédia. On l'aime bien l'utiliser de temps en temps, mais... D'accord.
Faut revérifier après les sources, mais...
C'est ça. C'est marrant parce que je trouve que dans tes textes... on en parlait avec Élise, une sorte de concrétude, mais en tout cas je trouve que t'as une écriture qui est très concrète, très ancrée dans la réalité, et tu traites des thèmes sociétaux, des thèmes où, parfois pour le moins graves, ou tu vois, de la maladie d'Alzheimer, la violence faite aux femmes, etc. Et en même temps, je trouve que ce texte, Breaking Moon, est très poétique, comme tu dis, fantasy. Donc il y a forcément un côté avec une certaine poésie. Et je trouve qu'il y a une ambivalence entre la concrétude que tu arrives à mettre dans tes textes ou dans Breaking Moon, des fois, tu vas parler des États-Unis, des pays, tu vas faire des listes comme ça, très post-apocalyptique, mais très, comment dire, très carré. Et d'autres fois où tu vas avoir une vraie poésie hyper légère, et tu te dis donc dans ta biographie nouvelliste, et je trouvais ça intéressant parce que j'entends pas souvent ce terme là souvent les gens se définissent comme autrice, dramaturge, écrivaine, et nouvelliste, pour moi il y a deux sens, il y a le sens nouvelle littéraire et il y a le sens journalistique du terme, dans le sens par exemple la maladie d'Alzheimer, ça pourrait être une page dans un article du Monde aujourd'hui, dans les cliniques, etc. Est-ce que toi, quand tu utilises ce terme-là, nouvelliste, est-ce que c'est aussi au sens journalistique du terme ou est-ce que c'est purement littéraire ?
Alors, pour les nouvelles, là, c'est purement littéraire. Mmh. Par contre, ce que tu dis sur le côté un peu documentaire, plus pour le théâtre, pour le coup. Mais pour moi, la nouvelle, c'est vraiment un espace où j'aime bien aller dans l'onirique ou dans un peu l'imaginaire. Peut-être que ça changera, mais pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt un échappatoire.
D'accord.
Okay. Mais plus pour les pièces, ouais.
Et j'ai senti aussi, derrière tes textes, la citoyenne qu'il y avait, toujours dans cette idée d'être ancrée dans la réalité, et j'ai trouvé ça hyper agréable et hyper étonnant. Et je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait quand je te présentais via ta biographie tout à l'heure, c'est toujours ce besoin de faire plein de choses en même temps et d'avoir des connaissances riches et multiples, de faire deux masters, deux licences en même temps, etc. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entre-soi chez toi, que c'est pas ce côté qu'on peut retrouver, sans méchanceté aucune, mais d'un artiste très, très poète, mais du coup qui ne fait que ça, qui passe ses journées à écrire, et qui en fait, au final, quand on lirait ses textes, peut-être un peu déconnecté de la réalité, parce que très lyrique, et tandis que toi, je trouve que t'arrives à avoir une vraie... un balancier, je sais pas trop comment dire, entre les thèmes que tu traites, la façon dont tu les écris et ton ancrage dans la réalité. Donc ça c'est même plutôt un compliment qu'une question en fait. Mais je me demandais si t'avais des thèmes récurrents, des thèmes de prédilection dans tes textes.
Je pense qu'il y a à peu près trois thèmes qui me préoccupent pas mal. Il y a forcément la violence faite aux femmes, le rapport au corps, enfin voilà, vraiment un côté assez féministe, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup, et notamment parce que les personnages féminins, ça commence à changer, mais dans le théâtre sont vraiment pauvres. Il y a pas vraiment beaucoup de palettes, quoi. Enfin, c'est la folle,
la mère,
ouais,
ou la pute,
l'amour, et la mère qui est folle aussi.
Voilà, oui, bien sûr.
Voilà, c'est ça.
Et souvent,
la prostituée, la folle, la prostituée, la mère, quoi. Enfin, ouais. Ça va être ça. Et c'est très triste, je trouve. Donc du coup, oui, ça m'interpelle. Donc ça, au niveau vraiment le personnage, et après, moi, c'est ce qui m'intéresse, qui me parle le plus dans la société. Enfin, c'est vraiment la condition des femmes. Donc je pense aussi, comme un peu dans Breaking Moon, il y a cette espèce d'attente, d'ennui existentiel, en fait, et d'attente qu'il se passe quelque chose. Et ça, je crois que ça me trahit beaucoup. Et après, il y a un autre ennui, mais d'une autre nature, c'est... un autre vide, je veux dire, c'est le vide de la dépression qui m'intéresse beaucoup, qui est un thème que j'essaye de traiter depuis 2 ans, et j'ai beaucoup de mal. Enfin, c'est très difficile, je trouve, d'arriver à communiquer ça.
Ah, c'est super dur, c'est hyper dur, parce qu'on peut vite tomber dans des choses un peu pathos ou un peu dramatiques, et ouais, c'est pas facile.
Et il y a ce côté-là, et puis il y a le côté comment traduire le vide avec justement quelque chose d'esthétique qui est le théâtre, enfin avec les mots, juste, du coup ça remplit ce vide-là, ça permet de le rendre beau, et moi c'est pas ça que je voudrais faire en fait. Et donc ça c'est, j'espère y arriver un jour, mais pour l'instant en tout cas je tâtonne, quoi.
T'as des autrices, auteurs de prédilection un peu
Les grandes rencontres que j'ai eues là, dans les années, dans les 3 ans à peu près, c'était Anya Ling, ça m'a bouleversée, je trouve ça magnifique. Marine Diaye aussi, pour le côté hyper cruel, ça me plaît beaucoup. Y en a d'autres après, Marion Aubert, Magali Mougel aussi. Et moi, il y a une autrice que j'aime beaucoup, mais qui fait des romans pour la jeunesse, c'est Marion Muraille, que je trouve fantastique en fait. Elle a une humanité, elle arrive à capter, elle est presque psychologue de l'écriture, je sais pas comment dire, elle arrive à capter une sincérité dans ses personnages, enfin, c'est vraiment un modèle. Donc voilà, je pense que pour l'instant, c'est les autrices qui m'ont le plus marqué, je crois.
On va lire un autre extrait d'un de tes textes qui s'appelle Anna, qui a été écrit suite à un stage de plusieurs mois que tu as fait en accueil de jour thérapeutique pour personnes souffrant de maladies neurodégénératives, notamment Alzheimer. Et Anna, c'est une pièce qui tente d'appréhender les différentes formes que peuvent prendre la violence dans cette maladie, que ce soit pour les personnes touchées comme pour les personnes proches ou le personnel gravitant autour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce stage que tu as fait ?
Du coup, pendant ce stage, j'étais à la fois à l'accueil de jour avec les personnes malades, justement, et je les suivais au quotidien. Enfin, elles restaient là la journée, en fait. Il y avait des activités, etc., des discussions. J'ai vu aussi l'autre versant, c'est-à-dire le versant des aidants, parce que je suis aussi une psychologue qui, elle, accueillait les familles aidantes, donc les conjoints, les conjointes, les enfants parfois, des personnes qui étaient reçues à l'accueil de jour. Donc c'était très intéressant d'avoir ces deux versions-là, et notamment sur la violence, qui est du coup un thème que je traite dans cette pièce. C'est parce que quand on était du côté de l'accueil de jour, enfin, il y avait des cas vraiment presque de maltraitance, mais pas volontaire en fait. Je me rappelle d'un conjoint qui laissait sa femme, qui était vraiment très atteinte d'Alzheimer, toute seule chez eux, parce qu'il partait travailler, et il l'a laissée se baigner toute seule, il l'a laissée courir toute seule dans la forêt à côté, et en fait elle se perdait en allant aux toilettes, par exemple. Donc voilà, c'est très dangereux, mais il y avait une sorte de déni, etc. Et quand on était du côté des aidants, on voyait aussi toute la violence que eux subissaient de la part de leur conjoint, conjointe. Et puis les enfants aussi, de voir les parents comme ça, et donc c'était intéressant d'avoir les deux côtés, je trouve, et puis aussi du côté du personnel aussi, qui reçoit beaucoup de choses assez morbides, enfin comme ça, d'attaques.
Toi, t'étais juste observatrice dans ton stage.
Avec les psychologues, oui. Après, j'ai aussi mené des enquêtes par téléphone, c'était un peu un prétexte, c'était pour savoir si ça avait été utile pour eux d'être suivi, etc. C'était très intéressant parce qu'il y a des personnes qui se confiaient aussi, voilà, c'était un prétexte pour parler en fait. Et à l'accueil de jour, par contre, je faisais les activités comme faisaient les infirmières, les aides médico-psychologiques qui étaient là. Donc, on était un peu, c'était un peu égal. Enfin, il n'y avait pas vraiment, moi, je suis infirmière, donc je m'occupe que des médicaments. Toi, t'es machin. Donc, ça, c'était chouette.
D'accord. Tu l'as écrit quand, ce texte ?
L'année après, enfin, en fin d'année, mon stage était pendant les vacances et le début d'année. Moi, j'ai commencé à l'écrire à la fin de l'année scolaire.
De l'année dernière ?
De l'année dernière. Ok. Ouais.
Moi, ce texte, il m'a touchée, parce que c'est pour moi Anna, justement, cette femme, comment elle devient étrangère par rapport à son mari, comment, qu'est-ce qu'ils ont été avant, et comment d'un coup, cette même personne physique d'apparence, enfin c'est la même quoi, comment on la reconnaît plus, comment lui...
Et comment elle ne reconnaît plus.
Oui, c'est ça,
mais les autres.
Ouais. C'est fou.
Ouais.
C'est fou, l'homme est un puits de... On est infini en fait, enfin, on peut changer comme ça du tout au tout. On devient étranger en fait, à soi, à l'autre.
À sa propre
ouais,
vie quoi.
C'est ça.
Ouais,
ouais.
Ça c'était assez cruel de voir ça pendant le stage. C'était très très dur à recevoir en fait ces conjoints et conjointes qui vivent avec quelqu'un qui devient complètement étranger en fait. Et en même temps, du coup il n'y a plus vraiment d'amour, mais c'est une sorte d'attachement. Alors, il y avait les deux cas. Il y avait des personnes qui étaient très amoureuses au début quand ils se sont mis ensemble. Donc, il y avait un reste d'attachement très fort et un temps de désespoir absolu. Parce que faire ? Et en plus, ils font le rôle d'infirmière, ils font le rôle de... Enfin, ils font tout, quoi. Et il y avait aussi des couples qui, eux, s'étaient mariés un peu par mariage de raison à l'époque. Hein. Enfin, c'était notre époque aussi. Et là, il reste que le serment, en fait, le mariage, enfin, le fait d'avoir dit oui, et jamais il pensera à divorcer, ou jamais il penserait à laisser abandonner l'autre. Et du coup, des fois, on a des cas où les gens se retrouvent prisonniers de ce serment, enfin, et en même temps, c'est tout à leur honneur, mais du coup, ils deviennent maltraitants malgré eux, parce que c'est extrêmement difficile à vivre.
Oui, c'est terrible, tu deviens responsable d'une personne qui n'a plus assez de conscience pour être responsable d'elle-même, en fait.
Et ça change tous les rapports, quoi. Ouais, il y a des maris qui se retrouvent à être des rôles de maman avec leur conjointe, alors qu'ils n'ont jamais eu l'habitude de faire ça, ils ne sont jamais occupés des enfants, enfin, ça bouleverse tout, quoi. C'est...
Oui, ça donne un autre rôle à la personne. Il y a une scène aussi avec l'assistante sociale, que je trouve géniale, et où justement elle demande aussi au mari qui est censé s'occuper de sa femme, mais est-ce que vous vous nourrissez, parce que son rôle ça va être de nourrir sa compagne, mais lui-même avant c'était peut-être pas son rôle, c'était peut-être la compagne qui s'occupait de faire à manger, et donc là ça le met dans une position où lui-même il va peut-être oublier de se faire à manger.
Et elle lui dit même, est-ce que vous avez besoin d'aide, quoi, dites-le moi.
Ah oui, parce que ça aussi, c'est terrible.
Ouais, je suis là aussi pour vous, monsieur. Monsieur le maire, il était maire avant.
Mais ça, c'est très bizarre aussi, on voit ça. Il y a à la fois des personnes qui viennent complètement désespérées et des mois. Mais c'est vague, c'est des mois. Et qui refusent toutes les mesures qu'on leur propose. Parce que c'est comme s'ils étaient condamnés à aller jusqu'au bout et à faire tout jusqu'au bout. Et ça, c'est très étonnant, en fait, à voir. Et il y a une idée qu'on trahirait la personne si on la confie, ne serait-ce que pour une personne qui vient aider à la toilette ou qui vient aider au repas. Rien que ça, des fois, c'est un déchirement parce qu'ils ont l'impression d'abandonner leur conjoint ou leur conjointe. Et c'est très déstabilisant pour les personnes qui sont là pour les aider, justement. Parce que du coup, il y a des fois un énervement. Mais pourquoi il refuse dans ce cas-là? Il a qu'à se débrouiller. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut vraiment travailler avec eux pour cheminer, quoi.
Et je peux poser une autre question. Pour écrire, par exemple, cette scène avec l'assistante sociale et le stagiaire, d'ailleurs. T'as mis un stagiaire, je trouve génial. Le stagiaire qui est complètement déconnecté.
C'est clair.
Mais est-ce que tu t'es basé de scènes réelles, vraiment, que t'as un peu retranscrites, ou ça c'est vraiment sorti de ton imagination?
Pour ces scènes-là, moi, j'étais avec une psy qui était géniale. Mais j'ai essayé de voir un peu le pire de chaque situation. Par exemple... le stagiaire, c'est un peu moi, mais dans le pire que j'aurais pu penser, en fait. Je pensais pas ça, mais il y a quelque chose comme ça. Et par contre, l'homme, c'est vraiment inspiré. C'est un mélange de plusieurs hommes que j'ai vus, mais il y en a un notamment qui m'a marqué. Il disait que sa femme l'appelait appelait son mari au téléphone, chez lui, parce qu'elle le reconnaissait pas comme son mari. Et du coup forcément ça sonnait chez elle, mais comme elle était en train de téléphoner, ça répondait jamais. Et elle faisait ça mais genre 10-15 fois par jour. Et du coup elle dit mais je l'appelle et il me répond jamais. Et elle disait ça à son mari qui était juste à côté d'elle.
Oh, terrible. Ah ouais,
et ça on sent que, et je pense que chacun a la chose qui l'a plus traumatisée, et lui c'était ça. C'était vraiment ce moment-là qui le bouleversait, quoi.
Mais c'est fou. Ouais. Ça crée des scènes en fait surréalistes complètement, quoi.
Et du coup, il y avait autant d'hommes que de femmes atteintes d'Alzheimer quand tu les as... T'as suivi plus de femmes que d'hommes ou...
À l'accueil de jour, il y avait plus de femmes. Mais du côté des aidants, on a reçu pas mal d'hommes, ce qui n'est pas forcément une configuration habituelle. Puis en plus, c'est plus difficile pour les hommes d'aller demander de l'aide, ils n'ont pas l'habitude. Il y a un côté honteux, en fait. Moi, j'ai papy, alors s'adresser à une psy, c'est terrible, ça. Mais moi, je suis pas fou. Mais seulement j'ai besoin d'aide concrètement, matérielle, voilà. Donc,
Mais c'est des gens qui ont quel âge à peu près? Ça touche à partir de quel âge l'Alzheimer? C'est quoi, c'est 50 ans?
Alors, il y a des Alzheimer précoces,
ouais.
Mais c'est vraiment rare, hein, les Alzheimer précoces, mais ça existe, où en effet tu peux avoir vers 50 ans, même plus jeune. Et nous, c'était quand même des personnes qui avaient 70-80 ans.
C'est Anna qui va nous lire un extrait d'Anna.
Il y a un homme dans mon lit, juste à côté de moi, juste contre moi, presque sa peau qui me touche. Un homme que je ne connais pas. Il s'est assis au bord du lit, a soulevé le drap, s'est glissé dessous, juste à côté de moi. Là, il est juste là. Il respire fort, comme les vieux. Il est vieux, je crois. Je l'ai pas bien vu quand il a rampé sous le drap. J'étais juste... J'ose rien dire. Un homme dans le lit, ça surprend. C'est même assez horrible, un homme dans mon lit. C'est vraiment dégoûtant de se permettre des choses pareilles. Normalement, c'est pas quelque chose qu'on permet. Entre gens polis, on se présente. Et on ne met pas ses chaussettes sales dans les draps, comme il fait là. C'est pas quelque chose qui se passe comme ça, normalement. Je crois que je peux dire quelque chose contre ça. Un homme dans mon lit, les chaussettes sur le drap, je vais lui dire de s'en aller. Je vais lui dire que mon mari va venir. C'est sorti. Sors tout seul, mon mari va venir. C'est une phrase toute faite. Mais on a le droit de dire des choses toutes faites quand on a mal au ventre. De dire des choses qui sortent toutes seules. J'ai une crampe dans le ventre, c'est ballonné. Il y a un homme dans mon lit, on n'a pas été présenté. On ne peut pas savoir comment il va réagir. Les gens réagissent, on ne sait pas toujours comment. Il va peut-être crier, il va peut-être me frapper. Il faut que je le frappe avant alors. Je vais le frapper, comme ça il n'aura pas l'idée de le faire. C'est bien comme idée. On se présente quand on est poli. Et puis c'est mon lit quand même. Bon, il est parti depuis un moment. Je sais pas où il est allé. Il est parti. Il est peut-être mort lui aussi. Parti. Comme... Il a peut-être disparu. Il m'a laissée toute seule. Je suis toute seule là. Depuis plusieurs heures, ça gratte. J'ai dû faire quelque chose de mal. Un truc, une bêtise. Pour qu'il ferme toutes les portes, une bêtise. C'est pour ça qu'il m'a attaché ce truc autour de la taille, entre les cuisses là, qui gratte. Comment on fait pour sortir de ce truc? Non, ça veut pas sortir. Merde. Merde, merde, merde. Merde, merde, merde. Quoi, quoi, il gueule. Il me gueule dessus, l'autre. Oh, il m'énerve. En même temps, il attend un truc, je fais un truc. Je peux pas deviner. Des fois, j'ai l'impression d'être bête. Il me donne l'impression d'être bête. Bête, oui. Mais des fois, c'est lui qui comprend rien. Il attend des choses que je fasse. Moi, je vois bien qu'il attend. Mais moi, voilà, moi, je sais pas toujours ce qu'il attend. Il m'énerve des fois. Là, tu m'énerves, là. Tu cries pas. Tu me cries pas dessus comme ça. Il comprend pas et tout le temps, il crie, il dit « Comme ça, pas comme ça, tu fais ça !» Alors des fois, je fais semblant de pas entendre ce qu'il dit. Ça l'énerve encore plus. Il comprend pas. Il voit rien aussi. Je lui montre, mais il voit rien. Je frotte, mais ça part pas. Des taches bleues très moches, très très moches, sur la main, là. Des fois, je regarde et paf, il y en a partout. Plus je frotte, plus il y en a, ça part pas. Et des gonflements sur tout le bras. Oula, j'ai eu un coup de pied au ventre d'un coup. J'ai cru que c'était une autre main, là, au lieu de la mienne. Collée. J'irai voir le médecin. Il me dira, lui, pourquoi j'ai mal au ventre comme ça. Et les taches. J'ai tout le temps mal au ventre. Faudra que j'en parle à maman.
T'as réussi à rendre aussi, c'est l'hésitation de la pensée de la personne qui commence une phrase et puis finalement qui part sur une autre phrase. Ça, c'est pas facile à faire aussi en littérature, je trouve. Et moi, c'est ce que j'ai bien apprécié, en fait. C'est vraiment qu'on est dans la tête de cette personne et qu'on suit tout le fil de sa pensée qui n'est plus vraiment linéaire, quoi. T'as fait lire ce texte à des aides-soignants, à des gens avec qui t'avais été pendant ces mois de stage?
Non, mais il faudrait que je le fasse. Enfin, je pense que c'est parce que, pour moi, je sais pas si elle est finie ou pas. En fait, c'est parce que j'ai des avis contraires. C'est-à-dire que pour moi, elle est finie parce que je voulais vraiment pas quelque chose qui évolue de façon tragique et qui se termine par la mort d'un personnage. Enfin, ça m'intéressait pas. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment faire suivre une journée ou plusieurs jours d'une semaine et voir quel est le quotidien, en fait, et qu'est-ce qui se joue, mais chaque jour, en fait, qu'est-ce qui se répète tout le temps. Et donc, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Ah bah oui, pour moi, c'est fini. Enfin, oui, oui, en effet, c'est, voilà, c'est un petit saupoudrage de ce qui peut se passer. » Et d'autres personnes, « Oui, mais moi, j'ai envie d'en savoir plus sur telle personne. » Donc, je suis encore dans cette hésitation-là. Mais je pense que quand, pour moi, ça sera clos, oui, j'aimerais bien... Après, j'ai peur aussi un peu des retours. J'avoue, je recule aussi un peu l'échéance.
Ouais. D'ailleurs, t'en fais quoi, toi, de tes retours? Est-ce que tu demandes des retours à chaque texte? Est-ce que t'as toujours une personne à qui tu fais lire tes textes et c'est un peu le Saint Graal, la vie que tu vas vraiment prendre en compte? Est-ce que t'es plutôt du genre à les faire lire à personne?
Surtout à l'ENSAT, on apprend à quel point c'est précieux d'avoir des retours. J'ai pas forcément de personne qui est pour moi la vie qui compte le plus. Bah, j'ai mon ami qui est très honnête, donc ça c'est très précieux, parce que s'il aime pas, il aime pas, mais il va me dire pourquoi. Pas trop à mes amis, parce que pour moi c'est pas forcément objectif, parce que c'est mes amis. Donc plutôt voilà, aux personnes qui peuvent venir justement à l'ENSAT, qui eux vont dire vraiment ce qu'ils pensent. Et du coup, oui, j'essaye d'avoir le plus d'avis possible. Et puis après, de trier aussi, parce que forcément, il y a des choses qui vont moins plaire à une personne, mais en fait, qui vont plaire à d'autres. Faut aussi faire un peu son jus là-dedans, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Eh ben, on va entendre un troisième et dernier extrait, cette fois-ci d'un texte qui s'appelle Corpus, qui est la pièce sur laquelle tu es en train de travailler en ce moment.
C'est ça.
Et donc, c'est un début de pièce, enfin, c'est un premier essai. Et donc là, tu m'as dit que tu avais coupé plusieurs scènes suite à des retours justement qui t'ont été faits, des retours de personnes honnêtes, j'imagine. Donc c'est une pièce qui traite des violences faites aux femmes et de la domination mondialisée des hommes par cette violence, par la soumission, le contrôle du corps des femmes, y compris dans des pays où l'égalité est présentée comme acquise, typiquement comme la France. Et c'est Élise qui va nous lire ce texte.
J'ai 9 ans. Je suis libre, je suis fière, je suis moi. Je suis l'univers. Je sais tout sur tout et je suis la meilleure. Je brille, je suis l'univers et je décide de ses règles. J'en brise d'autres, comme les accords. Je ne vois pas pourquoi je m'accorderais. Quand je parle en je pense en je. Je et moi. Les accords me frottent, les accords m'irritent. Et quand je m'énerve, je suis dure comme un roc et les aspérités se brisent sur l'arête de ma volonté toute puissante. Je suis la raison du cœur de mon monde et tous les autres sont des crétins. Lorsque je professe sur le monde ou quand je manipule les détenteurs du pouvoir, je me pense en je. Je est moi. Je est neutre et omnipotent. Je est l'univers. Et l'univers s'accorde avec un E. J'ai 20 ans. Répondez-vous en tant qu'étudiante ou en tant que femme? En cours, à l'université, une question sur la discrimination physique ou la maternité ou l'adoption. Là, je me sens gênée jusqu'à la racine de mes cheveux. Une gêne qui se tortille le long de mes jambes, de mon ventre, de mes épaules. Et je prends soudain conscience de ce corps assis là, sur ma chaise, en présence de mon moi. Jusque-là, j'avais su le mettre de côté. Jusqu'ici, ils avaient avancé chacun de leur côté. Et je vivais ma vie tranquillement, clivée dans mon esprit, jusqu'à ce que ce prof ait cette condamnation. Répondez-vous en tant que femme? Et là, je me sens rabaissée au niveau de mon corps, et mon esprit proteste dans cette chute. J'ai l'impression qu'on jette mon utérus au milieu de cette classe alors que je ne savais pas en avoir un, ou qu'on expose soudain mon corps nu devant les autres sans me laisser me défendre. Et là, je me dis, pourquoi il a dit ça? Et ça me semble grotesque. Et ça me met en colère, et ça m'humilie. Et puis je me dis, ça veut dire quoi répondre en tant que femme? Quelle différence, répondre en tant que femme? Et puis je me dis, je ne réponds pas en tant que femme, je n'en suis pas une. J'ai 26 ans, je ne suis pas une femme, mais je m'intéresse depuis longtemps à elle, d'un point de vue sociologique, par curiosité. Je m'insurge beaucoup, avec le plaisir de s'insurger. Et je suis toujours en colère, mais la colère semble toujours venir de là-haut et non pas d'ici, du centre. Ça m'inquiète. J'ai essayé une fois en rusant un peu. Une femme dans un article tuée par son mari quelque part en Russie. Elle portait le même prénom que moi. Elle avait le même âge. Alors j'ai essayé d'imaginer que j'étais elle en fermant les yeux et que je recevais 44 coups de batte de baseball. Ça n'a pas bien marché. J'ai 5 ans. Je grimpe partout et mon père m'appelle Stromboli. J'aime me balader cul nu et j'enlève systématiquement les vêtements qu'on essaye de m'imposer. Je gueule des chansons et des gros mots comme mon père qui passe son temps à râler contre ses outils qui disparaissent et ses chenaux qui se bouchent. « Je dois canaliser mon énergie », dit le compte-rendu de la grande section de maternelle, « et apprendre à faire plus attention aux désirs des autres. » J'organise des jeux grandeur nature et je passe devant tout le monde à l'heure du goûter. J'ai 9 ans. Ma mère, ma sœur et moi regardons des photos retrouvées dans un tiroir un jour de rangement. Sur presque toutes les photos, j'ai un pansement au genou et la bouche ouverte. Sur une des photos, je cours sur la plage de ma grand-mère en Bretagne où l'eau est si fraîche l'été qu'on en sort les jambes brûlées par le froid et lourdes comme du plomb. Dans mon maillot de bain noir usé par le sel, j'ai le sourire grand comme des ailes qui court sur le visage. Ma sœur ricane en pointant mon ventre rond qui tend le tissu. J'ai 16 ans. Ma mère me dit qu'avant j'étais un vrai clown et qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait pour avoir deux filles comme ça. Une fille de ma classe quitte son groupe d'amis un matin d'hiver et vient m'informer discrètement que je devrais arrêter de porter ce genre de jogging gris et moche. Ça fait au moins 3 ans que je ne me baigne plus. Je ne chante pas. Je fais toujours du playback dans les cours de chant. Je ne danse jamais.
Titties be booking cities all around the world. They be fucking with me. I'm a Calvin Klein model. Come and get me. Set the resi up. Don't be fucking with me. My little titties are so itty bitty. I go locomotive. Chitty chitty. Bang bang. Gold hoops and a name chain. 10 boots are like 4 rings. Missy Elliott can't stand the rain. You lame playing the same games. Little titties and so damn pretty. Staircase in a crack Philly. Little titties and a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Bop bop bow. Blue's Clues. Titties in my fat belly, my little titties in my fat belly, my little titties in my fat belly. My little titties in my fat belly, my little titties in my fat belly, my little titties in my fat belly. My little titties in my fat belly, my little titties in my fat belly.
That girl is a tomboy, that girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy, that girl is a tomboy, that girl
is a tomboy.
On vient d'entendre un extrait de Corpus, texte de Yana Raymond qui traite de la violence faite aux femmes. suivi de Princesse Nokia, qui chante la chanson Tomboy.
Tu traites aussi d'un sujet qu'on ne voit pas souvent dans la littérature, je trouve, la chirurgie esthétique. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
Pour moi, c'est aussi une violence, en fait, parce que... Alors, elle est décidée, on peut dire, oui, les femmes qui vont faire la chirurgie esthétique, quand c'est vraiment esthétique, hein, pas quand c'est suite à un accident, etc. Mais en fait, je trouve que ça se développe tellement dans des zones très intimes du corps que c'est terrible, en fait. Enfin,
par exemple, il y a toute une scène là où tu parles du remodelage d'un vagin.
Oui, voilà. C'est
assez incroyable, quoi.
Quand on va remodeler les petites lèvres, les grandes lèvres, etc. Enfin, je trouve ça... Enfin, c'est hyper violent, en fait, parce que ça veut dire... Puis en plus, c'est parce que souvent, les petits copains ont dit... dis donc, c'est quoi, c'est dégueulasse. Donc c'est quand même terrible que cette contrainte du corps aille jusque là, quoi. Enfin,
oui, jusque dans une chose aussi intime.
C'est ça. Puis en plus, on n'est pas un modèle de petites lèvres correctes, en fait. C'est parce que suite au porno, etc. Enfin voilà, enfin il y a vraiment un standard. Et bah comme l'épilation justement.
Intégrale.
Ouais, oui. Ça, voilà. Enfin ouais. Ça vient vraiment de ça au départ. Et du coup, c'est pour ça que c'est mis en rapport. Alors forcément, ça peut faire hurler, mais avec ben, tout ce qui est excision, etc., où là, on va dire, c'est vraiment une mutilation, et c'est horrible, etc. Mais par contre, la chirurgie esthétique étant justement décidée, à visée esthétique, on prend ça comme un progrès, alors que pour moi, ça ne l'est pas du tout, en fait. C'est aussi une mutilation pour moi, mais
ouais.
Ça se débat après, mais...
En tout cas, toi, tu mets ça en parallèle, c'est vrai.
Nous allons passer au quiz des 5 dernières minutes, plus connu sous le nom de...
Le quiz Poltanieze, qui veut dire pas le temps de niaiser, voilà, avec un vieil accent français, dirait les Québécois. Alors c'est quoi cet accent français? Donc ça veut dire il faut répondre le plus rapidement possible.
C'est le quiz.
Quel quiz?
Bah le quiz Poltanieze.
Poltanieze, qu'est-ce que c'est ça?
Bah Poltanieze.
Ah, le quiz des 5 dernières minutes.
Attention, pour écrire, ordinateur ou stylo à billes?
Ordinateur.
Un endroit parfait?
Allongé sur le lit.
Un livre de référence?
Miss Charity de Mario de Muraille.
Un livre à éviter?
Ça c'est difficile, hein? Ça c'est assez difficile. Hein, quand il faut bitcher?
On n'a pas le temps de biaiser.
Je sais pas.
Le temps est écoulé.
Bouger le noir, voilà.
Ah ouais. Une tenue?
À éviter ou
une tenue à éviter, ouais, vas-y.
Confortable, ample.
Une boisson pour écrire.
Du thé.
Une manie.
Dis-nous tout.
On n'a pas peur. Y a
une manie. Ah non, mais j'ai pas de manie, je crois. Enfin, si, c'est certainement, mais attends, j'essaie de trouver une manie. Je sais pas.
Peut-être un petit rongeage d'ongles des familles.
Ah oui, ça, oui, ronger les ongles, ça va.
Ah voilà, j'ai trouvé.
Tu peux répondre au plus.
C'est clair.
Je connais déjà tous les toits.
Eh ben merci, c'est la fin de cette émission. C'est la fin de DTO dans tes oreilles, qui, je le rappelle, a pour but d'inviter une autrice deux lundis par mois pour parler de ses textes contemporains, de théâtre ou autre. Et aujourd'hui, on recevait... Yana Raymond, c'était donc Raymond dans tes oreilles. Merci Yana d'avoir été là.
Merci beaucoup.
Merci également à Annaëlle Croiset d'avoir lu un texte qui s'appelait comme elle.
Merci. Parce que c'est le deuxième but de cette émission, d'inviter des comédiennes qui nous lisent de leur belle voix des textes, parce que bon, des fois, les textes qu'on entend à la radio, ils sont pas très bien lus.
Oui, c'est vrai. Cette émission a été réalisée par Élise Bonnard et Marie Fogère. On se retrouve